Europe 1, en balade avec Jacques Gamblin. Frédéric Tadié.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec le comédien Jacques Gamblin que nous partons en balade aujourd'hui dans l'Est de Paris, un comédien qui marche, qui court, qui fait de la bicyclette. Va-t-on parvenir à le suivre ? On va partir du parc de la Villette pour rallier la gare de l'Est en passant par le canal de Lourdes, qui est le bassin de la Villette. Une sacrée trotte, heureusement, il fait très beau.
Frédéric Tadié en balade avec Jacques Gamblin sur Europe 1.
Bonjour Jacques Gamblin, vous nous avez donné rendez-vous sur le belvédère de la Philharmonie de Paris, cette sorte de colline en aluminium avec vue sur le 93, Aubervilliers, Pantin, une vue à 380 degrés quasiment, hein, puisqu'il y a Paris derrière nous, la Tour Eiffel. Pourquoi cet endroit ?
Parce que je l'ai découvert il y a très peu de temps et qu'il m'a fasciné. Et que je ne m'attendais pas à voir Montmartre, je ne m'attendais pas à voir la Tour Eiffel à cet endroit-là, je ne m'attendais pas à cet espace, j'allais dire, l'impression que ça m'a fait la première fois, c'était un espace de silence.
Alors, oui, là, c'est le périphérique.
Non, mais comme je l'ai abordé de l'autre côté, j'espère qu'on va y aller, cette sensation de plénitude comme ça ici, et aérienne, m'a beaucoup séduit. Après, quand je suis passé de l'autre côté, en effet, là où on se trouve, c'est le périph'. C'est pas la raison majeure pour laquelle je suis là, mais j'ai besoin d'air, moi. Alors donc j'aime être dehors, et c'est un endroit qui, il y a des arbres, il y a la Villette, c'est des espaces, et si...
Oui, on est dans le parc de la Villette, hein, et il y a tout Paris qui nous entoure, mais aussi le Grand Paris, le 93. Il fait particulièrement beau, c'est particulièrement aéré. Vous êtes habillé un peu en alpiniste d'ailleurs, hein, petit bonnet, lunettes de soleil.
Ben oui, on a vaincu le belvédère avec l'ascenseur, mais on descendra à pied, j'espère.
Alors sous nos pas, il y a évidemment la grande salle de concert de la Philharmonie, 2500 places, mais il y a aussi des espaces d'exposition, des studios d'enregistrement, de répétition. Il y a un restaurant, vous connaissez en dessous ?
Pas du tout.
Pas du tout, mais vous êtes un homme des sommets.
C'est ça, mais je devrais connaître prochainement, parce que je crois que le 30 novembre, je donnerai à Pierre et le Loup avec l'orchestre philharmonique là, de Besançon.
Dans la Philharmonie.
Voilà, voilà, donc je découvrirai un...
Vue de la scène.
Exactement. Alors, mais on dit grand bien de cette salle et cette acoustique.
Monsieur, comment on fait pour aller de l'autre côté ?
On passe là-bas.
C'est là-bas. Ah, oui. Formidable, merci. C'est un endroit très futuriste. Hein. C'est Jean Nouvel qui est l'architecte ici. On se croirait un peu dans un film de science-fiction.
Tout à fait.
Vous avez jamais tourné de films de science-fiction ?
Non, il y en a peu en France.
Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on manque d'imagination ou parce qu'on n'a pas les moyens ?
C'est la troisième nation de cinéma en termes de production, la France.
Mais, oui, après les États-Unis et l'Inde.
Mais il y a des films de genre qui ont du mal à passer les frontières. Je ne sais pas si on laisse ça aux Américains ou si on a des scrupules de prendre le genre à bras-le-corps. C'est pas le seul d'ailleurs qu'on traite pas en France. Le film politique est rare, le polar existe, mais
oui, il y a une vraie tradition.
C'est pas majoritaire non plus quand même.
Alors nous voilà de l'autre côté, là cette fois-ci en plein soleil, vu sur Paris. On entend toujours le périphérique.
Oui, alors je sais pas pourquoi. La première fois que je suis venu là, j'ai eu l'impression du silence alors qu'il n'existe pas du tout.
Peut-être
malheureusement,
que le périphérique était fermé.
Oui. Peut-être il y a quelqu'un qui s'est mis en travers en étendant les bras et puis que tout s'est arrêté. On en rêve.
Là, on voit vers le sud et puis vers l'avenue Jean Jaurès. Vous aimez Paris ?
Non.
Vous avez le droit.
C'est pas Paris en soi que je n'aime pas, c'est que je ne suis pas un homme de la ville, surtout. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est-à-dire que je cherche toujours des endroits où où l'espace est ouvert, ou parce que je me sens très vite enfermé en fait quand je suis en bas. Et c'est aussi pour ça que je roule à bicyclette, parce que je cherche des endroits, je cherche la liberté en fait, à être indépendant, à être, à pouvoir circuler facilement. Et la bicyclette, c'est le meilleur moyen de ne pas se sentir prisonnier de rien, dépendant de rien.
Vous êtes né à Granville, au bord de la mer, donc.
Hein, voilà, je suis né au bord de la mer.
Dans la Manche.
Absolument.
C'est sûr que la mer doit vous manquer ici.
Oui, et c'est pour ça que j'ai maintenant une maison en Bretagne. J'ai retrouvé la mer et je suis très heureux. Je me souviens, quand j'habitais dans le 5e arrondissement, j'allais aussi aux arènes de Lutèce. Je pense à ça comme ça.
Les ruines romaines.
La recherche de ces endroits qui sont mystérieux. Parce que ça, même ici, le Belvédère, c'est pas, je ne pense pas que ce soit un endroit qui soit encore très, très connu. Vous-même, vous habitez dans le coin et vous n'étiez jamais monté.
Moi, je ne suis jamais monté jusqu'au sommet ici. C'est merveilleux. On le voit du périphérique. Les conducteurs, d'ailleurs, jettent toujours un œil dessus en voyant des gens qui se promènent, en se demandant comment ils ont fait pour monter. On se demande s'il faut l'escalader ou pas. Mais non, c'est plus simple qu'on commence.
Dans ce type d'endroit, il y a la tour Montparnasse aussi, le sommet de la tour Montparnasse.
Oui, bien plus loin. Ouais.
On peut aussi être en hauteur. Des endroits comme ça.
Mais vous êtes alpiniste aussi ? Parce que Dieu sait si vous en pratiquez des sports, mais est-ce que celui-ci...
Non, je ne suis pas tellement alpiniste. Non. Je monte des escaliers, mais je n'ai pas touché à l'Everest.
Je parle à un homme qui ne tient pas en place au Théâtre du Rond-Point là, jusqu'au 18 novembre, puis vous le jouerez en tournée. C'est inspiré de votre correspondance avec le navigateur Thomas Coville, au moment où il tente le record du monde à la voile en solitaire, un record qui pulvérisera en 2016. Mais c'est justement votre correspondance à tous les deux, pendant qu'il est en train d'essayer la quatrième tentative. Pour moi, c'est un hymne à la légèreté. C'est pour ça que je vous aurais bien vu, alpiniste.
Oui, j'essaye d'être le plus léger possible sur une base de correspondance qui ne l'était pas forcément tant que ça, parce que l'amitié, oui, ça c'est léger, mais écrire à un homme dont on ne sait pas s'il vous reçoit, et s'il vous reçoit, qu'est-ce qu'il va en penser, comment il va le prendre, etc. J'allais sur des œufs, quoi. J'ai démarré cette correspondance sans savoir que le lendemain et le surlendemain, j'allais continuer à écrire. Même s'il m'avait offert le cadeau de l'adresse mail, et qu'on est très peu à avoir, puisqu'on est 5 à avoir cette adresse mail quand il est en course, néanmoins, je me suis autorisé à m'en servir, mais tout en m'en servant, je me disais, est-ce que je fais bien ?
Oui, vous posez tout le temps la question de si vous n'êtes pas en train de le déranger, si même il lit vos messages.
Voilà. Bon. Et puis, peu à peu, il y a des indices, et peu à peu, je sais qu'il me reçoit, et non seulement qu'il me reçoit, mais qu'il me reçoit bien. Et évidemment, comme c'est plutôt bienveillant ce que je lui envoie, et que c'est plus pour l'accompagner que pour autre chose, donc y a une forme d'inquiétude, et puis peu à peu le spectacle se montant, oui, j'ai eu évidemment envie d'y apporter cette légèreté maintenant qui j'espère est dans le spectacle, et cet humour aussi.
Frédéric Taddeï en balade avec Jacques Gamblin sur Europe 1.
Nous sommes avec Jacques Gamblin en train de descendre le sentier le long de la Philharmonie de Paris, ce magnifique bâtiment de Jean Nouvel qui se trouve dans le parc de la Villette. Il est inauguré en 2015. On est au soleil, on descend vers le parc. Jacques Gamblin, vous connaissiez ce sentier ? Il n'a rien de naturel, hein, puisque c'est de la pure architecture.
J'aime beaucoup le terme de sentier. Sentier en béton, on peut appeler ça une rampe aussi, non ? Oui, je suis déjà descendu par ce sentier, en effet.
On parlait de légèreté, c'est quand même quelque chose qui vous anime, me semble-t-il, et pas seulement dans ce spectacle que vous jouez au théâtre de Pantin, du Rond-Point, j'ai Pantin sous les yeux, c'est pour ça. La recherche de la légèreté, j'ai l'impression qu'elle est à la fois dans votre goût du sport, mais aussi d'un théâtre assez physique.
Oui. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'avais envie de vous emmener là aussi, parce que moi, le rêve de voler est le plus beau des rêves.
Oui, vous les aviez écrit un texte là-dessus qui est devenu
c'est vrai.
Un seul
entre courir et voler, il n'y a qu'un pas, papa.
Voilà, c'était à l'époque, vous couriez plutôt.
C'est par là. Ouais. En fait, ce qui m'amuse, c'est le mélange des genres aussi. C'est-à-dire, c'est toujours ces grands écarts entre des choses qui sont un peu profondes et puis qui d'un seul coup sont anecdotiques ou poétiques, et que ça se décolle ailleurs et que ça surprend. Et puis en plus, je considère un peu mon métier que c'est une forme de devoir de proposer des choses qui ont à la fois de la résonance, mais que, enfin, ma mère, quand elle recevait des gens dans sa boutique, elle avait découvert que cette chose toute simple, que quand elle souriait aux clients qui arrivaient dans la boutique, elle avait un sourire en retour. Eh ben, je sais pas, ça m'est resté. Je me dis qu'un spectacle, il doit, comme disait Imamura, un film qui n'a pas d'humour n'est pas un film. Et pourtant, Dieu sait s'il traitait d'un cinéma parfois très cruel et très violent.
Imamura, c'est Shoei Imamura.
Shoei Imamura.
Avec qui vous avez tourné.
Voilà. Et je pense aussi comme ça, mais c'est parce que c'est ma nature. J'en fais pas une généralité, mais le besoin de légèreté passe par l'humour, l'inattendu. Et parce que je pense qu'on peut mieux rentrer dans les émotions si on a ouvert les chakras dans un premier temps, et puis que l'esprit de sérieux m'intéresse par moments, mais m'intéresse pour le fuir aussi à d'autres. Et donc je m'amuse beaucoup avec mon écriture à naviguer sur ces zones-là qui sont...
Il y a un côté chat aussi, un côté chat de gouttière, un côté chat écorché. Non, les chats, c'est toujours un peu en équilibre, et puis ça tombe et ça se retombe toujours sur ses pattes.
Sur ses pattes, ouais. Moi, j'aime bien cette image-là. Et puis l'indépendance, évidemment, on les regarde et on s'en lasse pas. Alors ça, c'est bien.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être acteur ?
Ce qui me plaît, c'est d'inventer des mondes, c'est d'inventer des imaginaires, et que, comme le veut l'imaginaire, il n'a pas de limite. Alors, c'est un espace de liberté infini. On peut inventer des histoires. Alors, au début, c'était juste avec des personnages qu'on me proposait. Et puis, peu à peu, à force de jouer ces personnages, je me suis dit, mais j'en ai peut-être un à moi que je peux, avec lequel je peux voyager, qui, avec sa valise, va raconter des histoires, tout simplement.
Et j'ai l'impression que c'est toujours le même. C'est Jacques Gamblin, dans le toucher de la hanche, quand vous parliez de la danse, quand... Aujourd'hui dans...
C'est toujours le même qui voyage, c'est-à-dire qui voyage avec moi, avec ma vie, avec mon âge, et parce que finalement je raconte toujours les histoires qui m'importent au moment où.
Et quand vous intitulez ce spectacle, je parle à un homme qui ne tient pas en place, on se dit que vous parlez de Thomas Coville, qui est au même moment en train de fendre les océans, mais c'est un peu vous aussi alors.
Oui, c'est bien sûr, c'est moi. Bien sûr, c'est moi. Je ne peux pas rester non plus tellement en place, je ne peux pas. Je ne peux pas rester tout... J'aime pas les repas qui s'éternisent. J'aime pas être assis sur une chaise pendant des heures. J'ai besoin toujours d'aller au dehors, de prendre l'air, comme on dit, d'aller dans le vent, de rêver. L'espace du dedans, pour moi, c'est l'écriture.
Je vous imagine même pas dans une voiture. Là, on est pas loin du périphérique. On voit toutes ces voitures. Je vous imagine pas du tout rester assis dans une voiture.
Non, vous avez raison. Je m'emmerde dans une voiture, mais je crois que c'est le lieu où je m'ennuie le plus. Même quand je suis au volant, je trouve ça ennuyeux un peu moins parce qu'on a des choses à faire. Mais on peut rien faire dans une bagnole. On peut pas lire, on peut pas écrire, on peut éventuellement écouter. La radio, bon...
Mais on ne peut rien faire non plus quand on court, mais au moins on court, c'est ça.
Ah oui, on ne peut rien faire, mais on produit des endomorphines qui vous font du bien quand même.
Là, on sort du sentier, hein, y a des portes.
La chimie. Hop. Ah, on est poussé pour sortir, c'est écrit en toute la joie, c'est fort.
Grosse porte métallique qui ferme le sentier.
Non, mais quand on court, on a des idées. On a des pensées, c'est de la méditation active. Et j'ai remarqué quand même que quand je courais, j'avais que des pensées positives qui passent dans ma tête, des solutions. Alors que quand je suis au volant d'une bagnole ou à la place du mort, ben oui, je suis mort-vivant, en effet.
Vous couriez sur la plage, vous couriez dans les dunes?
Oui, c'est ça. Je courais à perte de vue.
Ça m'a toujours paru inquiétant, les enfants qui courent seuls. Non, c'est vrai.
Pourquoi?
Je sais pas. Qu'ils se perdent. Je veux bien comprendre qu'on court en bande. Mais quand on court seul, je me disais, ah là là, ils doivent remâcher des problèmes, des tourments. C'est une façon de cultiver son tourment, de courir seul.
Ah ouais, d'accord. Alors, pas du tout. Hein. C'est le contraire, moi, que je ressens. Le contraire. Ça ne ressasse pas. Ça passe, ça file, ça coule. Toutes les pensées qui viennent, c'est une rivière. La pensée est une rivière. Et encore une fois, c'est que du bon.
Frédéric Taddeï en balade avec Jacques Gamblin sur Europe 1.
Nous voilà dans le parc de la Villette, dans le 19e arrondissement, avec Jacques Gamblin, le plus grand parc de Paris, 55 hectares, sur le site des anciens abattoirs de la Villette. On passe le long de la grande halle. Je me souviens, moi, dans les années 70, au moment où on a fermé les abattoirs, c'était la grande salle de concert de rock de Paris. C'est là que j'ai vu les Rolling Stones, Bob Marley, Lou Reed, David Bowie. Vous n'étiez pas à Paris à l'époque, hein, Jacques Gamblin?
Non, je suis commencé à habiter Paris 83-84.
Ouais, vous étiez encore à Granville
Non, j'étais à Caen. J'étais d'abord en Bretagne pour commencer le métier, dans une jeune compagnie, et puis ensuite à la Comédie de Caen pendant 2 ans. Au départ,
vous n'étiez pas acteur, vous étiez régisseur, je crois.
Oui, c'est ça, technicien.
Au théâtre du Totem.
Exactement.
Vous avez mis 2 ans avant de vous retrouver sur les planches.
C'est ça. J'ai mis un an et demi avant de me rendre compte que c'était pas tout à fait pour moi, enfin la technique, bien que j'aimais ça, mais je me suis retrouvé là un peu tellement. Par le hasard d'une belle rencontre que je ne me sentais pas très légitime non plus comme à la technique. J'y connaissais rien. Alors bon, bien sûr, on m'a formé peu à peu. Mais peu à peu aussi, j'ai senti venir le vent de me pousser vers la scène. Et je m'en rendais compte jour après jour parce que c'est une humeur un peu pas très agréable. Si pourquoi je suis de mauvaise humeur, c'est en fait parce que j'avais envie de passer de l'autre côté. Mais c'était très bien d'avoir cette expérience-là de technicien, de voir les acteurs jouer pendant 2 ans et pour ensuite comprendre de quoi est fait tout ce qui nous environne sur un plateau. Et c'est très utile depuis des années, maintenant que je fais mes propres spectacles, de pouvoir parler à tout le monde avec un langage quand même un tout petit peu plus technique. Grâce à cette expérience.
Et pourtant, assez vite, vous avez arrêté la scène pour faire une formation en menuiserie ou ébénisterie. Vous n'étiez pas convaincu encore. Hein.
Non, parce que ça m'a semblé trop le hasard d'une rencontre, la disponibilité, le bac en poche, rien à faire en septembre. Cette personne, Hubert Lenoir, qui me propose de remplacer son technicien qui s'en va. Et de me former. Enfin, c'était complètement inimaginable, complètement. Qu'est-ce que tu fais en septembre?
Petite fille qui nous fonce dessus avec une trottinette. Et vous avez vu le nombre de trottinettes à Paris?
Là, c'est quelques centaines sans doute déjà. Ouais. Mais dans quelques semaines, ça va être quelques milliers. Et je pense qu'ils doivent être un peu effarés parce qu'il va falloir légiférer à toute vitesse. J'ai lu
dans tous les pays où on a autorisé la trottinette, on a fini par l'interdire à un moment, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y en avait trop, sur les trottoirs.
En même temps, moi, je trouve ça très joyeux. Toutes ces choses-là qui roulent avec une roue, 2 roues ou 3 roues et qui envahissent le pavé, moi, ça me...
Tant qu'il n'y a pas de moteur.
Ça me ravit, tant qu'il n'y a pas de moteur. Enfin, ou en
tout cas, vous avez essayé la trottinette?
J'ai une trottinette pas électrique. Oui, j'ai tout essayé à peu près, ou presque. Mais c'est vrai que ça va servir à rien d'interdire, puisque de toute façon, ça va revenir. C'est l'avenir.
C'est comme la drogue.
Ça va revenir. Bien sûr, ça va revenir. C'est une façon de se déplacer qui est magique.
Là, on était à vos débuts au théâtre quand vous étiez adolescent. Les hésitations, alors pourquoi menuiserie et ébénisterie à ce moment-là?
Parce que tout simplement, j'aimais le bois. Et puis avec le temps, je me suis dit non, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Je veux travailler le bois. Et puis donc j'ai fait ce stage de 4 mois dans une petite entreprise. Et puis je me destinais à aller dans une formation de... un AFPA, une formation pour adultes. Et puis là, j'ai été rattrapé par le théâtre parce que là, Hubert Lenoir m'a rappelé alors que moi, j'avais fermé la porte. C'était fini. C'était une belle expérience inimaginable. Et puis, j'y suis retourné et là, j'ai eu le choix. Et c'est le sentiment d'avoir le choix entre une chose et une autre qui a fait que j'ai décidé et que j'ai découvert que la passion était là, mais que je ne l'avais pas voulu la voir comme si elle m'était tombée dessus.
Dans Laissez-passer, le très beau film de Bertrand Tavernier, qui doit être un des films que je préfère, et de Bertrand Tavernier et de vous, Jacques Gamblin, vous jouiez Jean de Vèvre, faisiez beaucoup de bicyclette dans ce film.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et à un moment, vous en faites 18 heures d'affilée pour aller rejoindre votre femme qui est réfugiée, ça se passe pendant l'occupation. Et il y a cette merveilleuse chanson de Tino Rossi, j'appelle ça une chanson de Tino Rossi, mais en fait c'est un extrait des Pêcheurs de Perles de Georges Bizet. Une chanson que j'ai beaucoup de mal à retrouver par la suite, c'est le seul enregistrement de cette chanson qui existe aujourd'hui, c'est dans la période originale du film. Je propose de l'écouter. Le titre c'est « Je crois entendre encore » et c'est ce qu'on entendait pendant que vous pédaliez.
Je crois entendre encore. Sous les palmiers, sa voix.
Je crois entendre encore, partie noire aussi. J'adore cette chanson et j'adore son interprétation. Je trouve que c'est la meilleure interprétation qu'on ait jamais donnée de ce morceau de Georges Bizet.
Quand Bertrand Tavernier m'a fait entendre ça et a essayé sur ce plan de bicyclette, je me souviens très bien, c'était chez lui et devant ces montagnes de cassettes, de DVD. Bon, puisque tout le monde sait que Bertrand est une encyclopédie du cinéma mondial. Et il montait de façon un peu fragile comme ça sur l'échelle pour aller chercher un film des années 30. Et puis il redescendait fébrile, me montrait un plan. Et puis cette chanson, et puis ce plan de bicyclette. Bref, enfin, tout ça se mélange dans ma mémoire. Mais toujours est-il que j'étais en larmes tellement je sentais qu'il avait tapé juste. Et comme par hasard, ce plan est souvent revenu dans la mémoire des gens. Parce que c'est ce type tout seul, comme ça, qui part par amour, la nuit, le jour, pour retrouver la femme de sa vie. C'est juste sublime.
En même temps, Jean Devèvre, le vrai, qui était encore vivant à l'époque, a voulu interdire le film après. Il n'était pas très content
Il y avait eu une
de l'image qu'on donnait de lui, de sa résistance. Pourtant, Dieu sait si vous êtes merveilleux dans ce film. Mais bon, on peut comprendre après. C'est un problème pour l'acteur quand il y a la personne originale qui dit non, je ne veux pas de ça.
Bah, c'est un problème, pour l'acteur, pour le film, pour une polémique qui nuit un peu au film. C'est un peu, surtout que Bertrand Tavernier, c'est quand même quelqu'un qui a tellement de scrupules pour respecter la vérité obsessionnellement, j'ai envie de dire que c'était un peu triste. Bon, après moi je suis pas rentré
là-dedans. Le film est resté.
Le film est resté et Dieu merci, le prochain réalisé par Niels.
Ça, c'est le film de Niels Tavernier où vous jouez le rôle du facteur cheval qui construit pendant 33 ans son palais idéal.
Donc le facteur cheval ne pourra pas se relever de sa tombe pour dire c'est pas tout à fait comme ça que j'ai construit le palais idéal. J'ai interdit le film parce qu'il y a une pierre qui est mal placée.
On en parlera, j'aime beaucoup le facteur cheval aussi.
Frédéric Taddeï en balade avec Jacques Gamblin sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Jacques Gamblin en balade le long du canal de l'Ourcq, le canal qui alimentait Paris autrefois en eau potable. Pour vous, c'est important qu'il y ait de l'eau.
Comme je disais tout à l'heure, un film qui n'a pas d'humour, une pièce qui manque d'humour, n'est pas un film, comme disait Shoji Imamura. Mais là, moi, c'est une ville qui n'a pas d'eau. C'est un peu difficile pour moi. Je me sens échoué.
Ça n'est qu'un canal.
Oui,
ça
mais c'est
pas
de
la
l'eau.
Mer de Grandville.
C'est quand même de l'eau. Alors, bien sûr, le jour où on pourra s'y baigner, ce sera encore plus de l'eau. Et là, il y a des bateaux, des péniches.
Là, on passe sur un pont tournant.
Quand il y a des bateaux, quand il y a de l'eau, je suis tout à fait rassuré sur le monde, même d'un bateau dans un jardin.
C'est l'idée qu'on peut s'enfuir.
Bien sûr, c'est l'idée qu'on peut s'enfuir.
Qu'est-ce qui vous a attiré chez Thomas Coville? C'est les bateaux, c'est la mer?
C'est le rêve, c'est l'admiration que j'ai pour lui et pour d'autres qui font ce travail insensé. C'est le goût, évidemment, de naviguer moi-même. Ils vont tellement loin, ces gens-là. Je ne sais pas où ils logent la peur. C'est une énigme pour moi parce que ce sont des êtres humains, non, ils ne sont pas dénués de peur, mais ils repoussent les limites sans arrêt, mentalement et physiquement.
Même vous avez peur quand vous montez sur une scène de théâtre, vous êtes très, très traqueur, je crois.
Ben, je suis, oui, aussi, j'ai peur. Moi, après, je ne mets pas ma vie en danger.
Non, mais c'est drôle d'avoir peur dans le métier qu'on fait, dans lequel, a priori, on excelle.
Ben, oui, c'est ce que
je suppose que c'est pareil pour lui, d'ailleurs.
C'est curieux, c'est ce que je dis aussi dans le spectacle, pourquoi nous nous sommes donnés, chacun dans notre métier, ce qu'il y a de plus difficile à faire. Personne ne nous a forcé. Il faut soulever des montagnes dans la minute qui précède le premier pas sur le plateau. Il faut soulever des montagnes pour repousser cette peur.
Vous dites que c'est dès le matin, vous. Dès le matin, vous y pensez.
Oui, mais je crois que c'est un peu, non, tous les acteurs, non, tous les gens.
Non, je crois pas. C'est très inégalement distribué, le trac.
Il y a un désir, une peur de déplaire, de se déplaire à soi, de déplaire aux gens qui sont là, qui ont payé une place. Enfin, c'est assez basique, je pense. Et puis en solo, avec sa propre écriture, ça démultiplie cette trouille, évidemment. Sur ce spectacle, je suis un peu plus calme de ce point de vue-là et j'en suis ravi parce que c'est tellement un spectacle qui se joue dans la plus grande nudité et tout ce qui se dit là est... Il n'y a plus de personnages. Et donc, je dois faire absolument avec ce que je suis au moment où ça démarre et pas aller chercher autre chose et pas aller trafiquer. C'est toujours le cas, vous me direz, mais là, cette écriture-là me pousse à la plus grande vérité, quoi.
Il y a plein de bateaux, il y en a qui s'appellent le barboteur devant nous, il y a beaucoup de cyclistes, il y a beaucoup de trottinettes, mais aussi
de
gens qui courent et beaucoup de soleil. C'est un Paris très estival. Hein.
Je me sens très oppressé là, dans les rues de Paris. Comme je disais, je circule beaucoup à bicyclette, mais c'est tout à fait assez effroyable quand même. Enfin, ça m'apporte quelque chose, évidemment, de le faire comme ça, mais ici, quand on se retrouve ici, pourquoi les gens... Ce que j'aime ici, c'est que les gens qu'on croise, toutes ces générations, des gamins qui courent, des ados qui jouent sur la pelouse, au football, enfin toutes sortes de personnes qui viennent là pour poser quelque chose, pour déposer quelque chose. Alors que quand on est plus à l'intérieur de Paris, c'est un marteau piqueur permanent, le stress, la rapidité, le métro,
le tien, les bouchons. Il y a villeggiatura, comme disent les Italiens.
Là, voilà, les gens se rencontrent. Ils boivent un coup, presque les pieds dans l'eau, et ça donne une atmosphère que je découvre depuis très peu de temps, hein, tous ces quartiers. Moi, j'habite plutôt dans le sud et pas loin de la gare Montparnasse, mais je découvre ces quartiers-là, comment ils explosent, dans le sens des espaces et dans le sens des rencontres.
Et c'est vrai qu'on crédite toujours à Napoléon Ier la construction de l'Arc de Triomphe, mais c'est Napoléon Ier aussi qui a construit le canal de l'Our, le bassin de la Villette. À l'époque, c'était pour que les Parisiens aient de l'eau potable, mais c'était aussi pour que les bateaux arrivent et acheminent jusque-là des denrées, des provisions.
Et il me rappelle le canal... de Panama que j'ai eu que j'ai eu la chance de non pas de creuser mais de passer avec le bateau Tara il y a quelques semaines où j'étais invité sur le bateau entre Panama et New York pour la fin de la mission Tara Pacifique qui collectait des prélèvements de coraux et de plancton, mission qui a duré 2 ans et demi, et j'avais la chance d'être invité à bord pendant 2 semaines et demie pour rallier New York et ce canal de Panama. C'est insensé. On a l'impression comme ça que ça n'a pas bougé depuis 100 ans. Ces petites locomotives qui sont sur des rails et qui tirent les cargos, les énormes cargos, ou qui les retiennent. C'est une mécanique. Enfin, c'est absolument incroyable.
D'ailleurs, au loin devant nous, il y a le dernier pont qui se lève, le pont de la rue de Crimée, qui est un pont qui est obligé de se lever pour laisser passer les bateaux. Comme les ponts sur la Neva, Saint-Pétersbourg. Moi, j'aime bien, ça me fait rêver, les ponts qui se lèvent.
Moi aussi.
Europe 1. On se retrouve tout de suite avec Jacques Gamblin. On approche du bassin de la Villette.
Frédéric Taddeï en balade avec Jacques Gamblin sur Europe 1.
Nous sommes avec Jacques Gamblin sur le canal de l'Ourcq, dans le 19e arrondissement. Il y a des péniches peintures lurées qui font restaurant, qui font théâtre, qui font boîte de nuit. C'est un endroit qui ressemble beaucoup au Paris d'aujourd'hui, au fond, un Paris où tout le monde est un peu le touriste dans sa propre ville. On a l'impression que personne ne travaille ici.
Ouais, ça ressemble, pour moi, enfin, si j'avais envie de venir par là, c'est parce que ça ressemble à ce que j'aimerais que Paris devienne. Avec des espaces publics plus grands, plus larges, on peut s'asseoir par terre, on peut, etc. Et je fais le lien là avec le belvédère de la Philharmonie, parce qu'on dit la musique
adoucit notre balade.
Absolument, la musique adoucit les mœurs, mais l'eau aussi adoucit les mœurs. Et dès qu'il y a de l'eau quelque part, c'est comme si tout se mettait à un autre rythme. Et je pense que l'âme des gens se calme.
C'est Claude Lelouch qui vous a révélé au grand public Jacques Gamblin, notamment avec Tout ça pour ça, un film dans lequel vous formiez un trio particulièrement joyeux avec Vincent Lindon et Gérard Darmon. La célébrité qui a dû vous tomber dessus à partir de ce moment-là, comment l'avez-vous vécu ?
Il y a 2 réponses. La première, c'est la célébrité, c'est quand même toujours une reconnaissance d'un travail.
Notamment alors, quand on est acteur, on est un peu obligé d'en passer par là.
Voilà, mais bon, mais quand on est boulanger et qu'il y a beaucoup de monde dans la boutique qui viennent acheter la baguette de pain, c'est quand même parce qu'a priori elle est bonne. Donc c'est la même chose pour tout le monde. Et la deuxième réponse, c'est que, évidemment, c'est un état de fait qui est... Moi, j'aime bien aussi le secret.
Donc, vous n'étiez pas particulièrement volubile dans ce film, d'ailleurs. Vous étiez une espèce de rêveur qui avait parfois du mal à trouver ses mots.
Absolument, et qui a tellement de mal à trouver les mots et qui se suicide au... Une tentative de suicide au shampoing, puisqu'il est coiffeur. Et je me souviens, à l'époque, l'écran total n'existait pas. Et j'ai passé tout mon été, comme on tournait fin d'été, à être dehors avec des chapeaux, des voiles sur le visage pour ne pas bronzer, parce que ce coiffeur parisien n'avait aucune raison d'être brun, mais blanc comme un linge. Et donc on voit ce type blanc entre les deux bronzés que sont Vincent et Gérard. C'était assez drôle. Mais c'était un travail de préparation.
Vous avez fait 4 films, je crois, avec Lelouch, des petits rôles parfois, hein, au départ. Ouais. Mais c'est vrai que c'est commencer par Lelouch au cinéma, c'est toujours un cadeau. Il paraît qu'il est merveilleux avec les acteurs.
Il est merveilleux avec les acteurs, il aime les acteurs, il est très inventif, il a une énergie de dingue. On ne sait jamais ce qui va se passer dans la journée, on n'a pas en main le scénario. Tout est dans sa tête, il va chercher toujours du frais, du spontané, de l'invention.
Il est toujours bon, surtout. C'était arrivé à être mauvais dans un film de Lelouch, ça paraît invraisemblable.
C'est vrai. C'est parce qu'il a trouvé la technique qui lui correspond parfaitement et qu'il a développée depuis tellement d'années. Après, Chabrol arrivait, je pense...
Dans une
façon de faire complètement opposé, c'est aussi la même chose. Y a pas... Les acteurs sont toujours magnifiques chez Chabrol. Et pourtant, c'est du tourné-monté, c'est exactement ce qu'il veut. Et pourtant, il y a une autodiscipline chez l'acteur dans les films de Chabrol et dans les tournages qui est incroyable parce qu'il fait très peu de prises. Donc du coup, on va tout de suite à l'essentiel. Donc c'est complètement l'opposé dans la façon de faire. Et c'est bien qu'il y ait des mille et une façons de faire, j'adore ça. Moi, notre boulot, c'est quand même de nous adapter à toutes ces façons de faire.
Et Gabriel Aguillon dans Pédale douce, alors lui, ça va être un énorme succès public à l'époque, c'est aussi votre première scène de nu, mais là, vous accédez réellement au végétariat, là.
Oui, que dire. Oui,
vous y accédez nu.
Ça a été une rampe de lancement, une rampe de lancement tout nu.
Être nu, c'est quelque chose qui était nous. Plus ou moins nouveau pour les acteurs. Dieu sait si les actrices françaises en particulier s'étaient mises nues très tôt. Mais pour les acteurs, c'est venu plus progressivement.
C'est vrai. Pourquoi alors, hein? Sociologiquement, etc., psychologiquement, c'est suspect, non?
Non, c'est parce que, en revanche, le corps masculin était peut-être moins apprécié unanimement que le corps féminin.
Bon, je pense que c'est surtout extrêmement macho et que c'est une dynamique qui a plus un rapport avec ça. Les publicités continuent d'être majoritairement des femmes qui se dénudent pour un sac à main ou pour...
Et c'est peut-être parce que justement c'était un film sur l'homosexualité.
Pour un yaourt.
Vous étiez dit Julien homosexuel que vous êtes déshabillé. Alors.
Je continue de mal comprendre pourquoi il faut se foutre à poil pour vendre un yaourt ou un sac à main. Mais oui, c'est vrai que le sujet de l'homosexualité et de la transgression est amené à cette folie. Très réjouissante d'ailleurs.
C'est un bon souvenir, Pédale douce.
Oui, bien sûr, c'est un très très bon souvenir. C'est un très bon souvenir.
C'était un succès en plus un peu surprise. Personne ne savait si ça allait marcher ou pas. Et ça a marché.
C'est les plus beaux succès, hein, les surprises.
J'en profite qu'on marche au bord de l'eau. Jacques Gamblin, je crois que vous aimez plutôt le rock, vous. Hein.
Le rock, le funk.
Ouais. Ouais. Vous aimez Creedence Clearwater Revival, cette chanson Walk on the Water.
Ah bah oui.
Voilà, je m'en doutais. On l'écoute.
D'accord. With my own eyes, and I swear I'll never.
c'était Walking on the Water par Creedence Clearwater and Revival, le groupe qui vendait probablement le plus grand nombre de disques à la fin des années 60. Vous m'avez dit oh oui, pourquoi elle vous rappelle quoi cette chanson ?
Des bons souvenirs.
on s'arrêtera là. On se retrouve dans un instant avec Jacques Gamblin au bassin de la Villette.
Frédéric Taddeï en balade avec Jacques Gamblin sur Europe 1.
Nous voilà avec Jacques Gamblin au bord du bassin de la Villette, le plus grand plan d'eau artificiel de Paris, mis en service en 1808. C'était la réserve d'eau potable. Aujourd'hui, il y a des cygnes, les gens les nourrissent, il y a des courses de kayak, il y a les cinémas de Marine Karmitz, les deux cinémas MK2 qui sont en face de chaque côté avec un petit bateau qui emmène les spectateurs d'une salle à l'autre. On a l'impression d'être dans une toute autre ville que Paris, hein, ici.
Ouais, je ne sais pas où on est. J'aime bien, je ne sais plus où on est. Quand, ça fait pas très longtemps que je découvre hein, vraiment tous ces endroits, mais ils m'éclatent.
Dans votre spectacle, tiré de votre correspondance avec Thomas Coville, pendant qu'il fait la tentative de battre le record du monde en solitaire à la voile en 2014, il y parviendra qu'en 2016, vous parlez des militants de la joie, de la folie, des possibles, ceux qui veulent aller de l'avant. Et vous dites qu'ils ne sont pas si nombreux que ça. À qui pensez-vous ?
Je pense à moi à chaque fois que je dis non.
Ah, les militants de la joie, ils disent plutôt oui.
Oui, oui, mais bon, moi je pense aux gens qui se rassurent par l'habitude et que dès qu'une chose change, que ça inquiète tout le monde. Je pense aux gens qui pensent que si on enlève des voitures dans certains quartiers, le quartier va devenir triste parce qu'on n'entendra plus les voitures passer. Voilà,
on se dit pas que ça, on se dit aussi, parce que moi qui suis un vieux parisien, on se dit aussi, ah ben, si je peux plus y aller en voiture, j'irai peut-être plus.
Voilà,
c'est aussi ça qu'on se dit.
Alors qu'il y a plein d'autres façons d'inventer, évidemment, le transport et qui permet des rencontres.
Cela dit, on marche depuis tout à l'heure, depuis assez longtemps maintenant, on n'a pas fait de rencontre, hein, Jacques Gamblin.
On se fait la nôtre de rencontre. Mais oui, j'admire les gens qui ont cette disponibilité d'aller voir derrière la porte ce qui se passe et qui décident que la peur n'est pas le bon moteur.
La vie est belle pour ceux qui n'en ont pas peur, disait Charlie Chaplin.
Oui, ben voilà, il l'a dit.
Ce serait ma devise.
Je pense comme lui, comme Charlot.
Là, on a devant les yeux la rotonde de la Villette. On est à Stalingrad. C'est comme ça que s'appelle le quartier. Pendant un temps, c'était là qu'étaient les dealers de drogue. Mais je crois qu'ils sont partis.
Ils sont partis où ?
Ah, ça. Allez savoir.
Il est fort, ce Marine Karmitz, d'avoir implanté des cinémas dans des endroits qui n'était pas encore... cette vision qu'il a eue de l'avenir sur des quartiers...
Marine Karmitz, c'était lui qui produisait Au cœur du mensonge, dont on parlait,
absolument.
Le film de Chabrol. C'était à l'époque, Chabrol filmait systématiquement des faits divers. Vous parliez tout à l'heure des films politiques. Il n'y en a pas beaucoup en France, disiez-vous. Vous en avez fait un, le film de Michel Leclerc, Le nom des gens, dans lequel vous jouiez un jospiniste.
C'est ça.
Le dernier jospiniste, il y avait d'ailleurs Lionel Jospin à la fin du film.
Scénario qui m'a le plus fait... marrer à la lecture. C'était improbable, mais ça prenait des beaux risques et ça avait une liberté de ton.
Avec Sarah Forestier qui couchait pour convaincre. Elle couchait avec ses ennemis politiques, ses adversaires politiques en espérant leur faire changer d'avis.
Voilà. Le cul comme argument politique.
Vous y croyez ? Vous avez trouvé ça pas bête,
quoi. Oui, c'est pas bête du tout. Je sais pas, tout est bon, hein.
Vous êtes politisé,
pour influencer les gens, peut-être. Si je suis politisé.
Vous avez des convictions politiques ? Je vous les demanderai pas, hein, vous inquiétez pas.
Mais... Non, mais je crois que maintenant, ça quand même, ça se sait que je n'ai jamais déposé un autre bulletin que celui de l'écologie dans l'urne depuis que j'ai 18 ans.
Mais je me demande si c'est politique,
Alors non, peut-être c'est pas politique, mais enfin c'est quand même une vision d'une société, c'est quand même des gens qui ont qui ont alerté le monde et la politique et la société et les industriels depuis de nombreuses décennies déjà. Il se trouve qu'ils avaient raison dès le départ et que maintenant on s'en rend compte et qu'il faut rattraper un temps qui est perdu. Et c'est dommage. Alors c'est quand même une vision politique du monde.
On rentre dans la ville là, hein. On entend, on est à Stalingrad, il y a le bruit du métro aérien, des voitures, il y a même le bruit des écluses, puisqu'on est au-dessus du canal Saint-Martin et qu'il y a les bateaux de touristes qui se déplacent. Je me souviens, moi quand j'étais adolescent, on prenait la Patache, c'était le nom du bateau, qui nous faisait franchir toutes les écluses vers le port de l'Arsenal, le port de plaisance de Paris.
Et qui passe sous la Bastille,
c'est fait ça. Qui passe ouais. Effectivement, sous le boulevard Richard Lenoir, sous la Bastille. Vous l'avez fait cette petite croisière ?
Ouais, c'est génial. Ouais. C'est génial quand on passe sous la place de la Bastille, sous l'obélisque, ouais. Pas l'obélisque, comment on appelle ça ?
La colonne de la Bastille.
La colonne de la Bastille. Ouais.
Là, on revient dans la ville. Hein. Il y a les bruits de la police, des pompiers.
Et là, on arrive là, dans un monde extrêmement civilisé.
Plus urbain, on va dire.
Oui, c'est ça. Plus urbain que civilisé, d'ailleurs, parce que là c'est la folie. Voilà, on est dans la dinguerie, quoi. C'est le balai des bagnoles, le balai des klaxons, le balai de l'incivilité, le balai des cris.
Jacques Gamblin, ça va être l'heure des infos. On se retrouve juste après. On continue notre balade vers la gare de l'Est, hein, puisque l'important, c'est les gares. En balade avec Jacques Gamblin, nous voilà de retour au calme, puisqu'on est descendu au bord du canal Saint-Martin. Vous n'avez pas supporté la grande ville très longtemps, hein, les klaxons, les sirènes.
Non, j'ai du mal, du mal. Je l'avoue, j'ai beaucoup de mal.
Là, quand on a le canal Saint-Martin sous les yeux, et tous ces canards, je pense aux enfants du Marais, que vous avez bien joué avec André Dusselier, avec Jacques Villeray, avec Michel Serrault. C'était au bord de l'eau aussi, encore un film au bord de l'eau.
Absolument, ouais, c'est
un énorme succès.
Un énorme succès, c'est de ce film encore, dont on me parle quasiment le plus, il est resté, c'est un classique. Les parents montrent aux enfants, les grands-parents, aux petits-enfants, etc. C'est chouette, j'aime bien, moi, c'est un film écologique pour le coup.
Ah oui.
C'est bien.
Vous jouiez de l'accordéon dans ce film. Est-ce que vous êtes musicien, Jacques Gamblin ?
Non, je ne suis pas musicien. J'ai tenté différents instruments. Je me suis un peu plus arrêté sur les percussions, la batterie, les congas. Et puis, le boulot a pris le dessus très tôt. Et la batterie, ce n'est pas l'instrument facile à trimballer et à répéter dans des appartements. Donc, tout ça. Mais je désespère pas, peut-être, de reprendre le spectacle jazz m'a donné envie de temps
avec
en temps.
Laurent De Wilde.
Avec Laurent De Wilde. Et,
oui, moi, j'appelle toujours De Wilde.
Et Donald Contomanu qui me donnait des petits cours comme ça avant de jouer. Mais merveilleux batteur.
S'il n'y a pas la musique, il y a la danse toujours chez vous. Et dans le spectacle, en ce moment, Théâtre de la Porte Saint-Martin, vous parlez de vos cours de tango. Vous êtes en train de prendre des cours de tango. On a l'impression. Vous aviez écrit ce très joli petit livre qui s'appelait Le toucher de la hanche.
Sur la valse.
Sur la valse.
Sur le trois temps.
Vous n'avez jamais cessé de danser.
C'est vrai que la danse, elle a pris une place qui est la résonance des mots, qui est le moment où on ne peut plus dire et où le corps se met en mouvement parce qu'il ne peut plus raconter, il ne peut plus tenter de raconter l'émotion qu'on voudrait raconter. Alors du coup, le corps prend le relais, c'est comme ça que je vois la danse. Et d'ailleurs, dans le spectacle, là, je parle à un homme qui ne me tient pas en place, et à un moment donné. Je ne sais plus comment ça s'est fait, je lisais le texte, tout ça. Enfin, je travaillais sur le texte, et puis un tango est arrivé sur iTunes. Et je me dis, mais oui, bien sûr, en fait, ce petit point jaune qui symbolise Thomas Coville et son déplacement sur l'océan, en même temps que je lui écris, devenait un partenaire de jeu, mais aussi de danse. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je danse le tango avec ce point jaune, qui est à la fois, au début, un point très éloigné. Et puis plus il se rapproche de la côte, plus il devient gros. Et il devient une tête, un visage, et peu à peu un globe terrestre.
Je me suis toujours dit que c'était aussi peut-être pour ça que si les femmes vous aiment beaucoup en tant qu'acteur, à la fois au théâtre comme au cinéma, pas seulement parce que vous êtes minute dans Pédale Douce, mais aussi parce que vous dansez, au fond. Il y a tellement peu d'hommes qui dansent et tellement peu d'occasions de danser au cinéma, dans le cinéma français en tout cas. On danse très très peu.
C'est vrai.
D'ailleurs, souvent les gens de cinéma ne savent pas danser. Vous savez ?
Oui, je sais. Enfin, j'ai appris sur le tas.
Mais vous avez fait cet effort.
Oui. Oui, sur 1h23, on peut dire que c'était 1h23 minutes 14 secondes et 7 centièmes. Oui, c'était vraiment un effort parce que c'était millimétré et les textes plus la danse, c'était juste une horreur en fait à répéter parce qu'on changeait sans arrêt, donc il fallait remémoriser les pas, le mouvement avec les textes, etc. Oui, ça veut dire.
Et quand il danse, un homme est toujours plus vulnérable. Jean Gabin, qui est un excellent danseur, qui dansait souvent dans ses films, dansait la valse, il dansait la valse musette. Il a dansé très bien, mais à ce moment-là, il était fragile et vulnérable.
C'est
même
vrai.
Gabin.
Je trouve que c'est une très belle image, ça, en effet, de comment l'homme devient plus vulnérable quand il se met en mouvement, dans sa maladresse parfois. Et j'aime ça, en effet. Je crois que ce goût-là est venu très simplement par ma famille, en fait. Parce que j'ai vu mes parents danser à moult fêtes et que chez nous, il n'y avait pas de fête sans la danse. Et ils dansaient juste.
Dansaient à deux, à
l'époque. Dansaient à l'endroit, à l'envers, ils dansaient à deux, bien sûr.
On ne danse plus à deux.
Et je les admirais beaucoup, en fait. Et j'ai appris à danser à deux dans les bras de ma mère et ma sœur dans les bras de mon père. Et ça avait une symétrie comme ça qui s'est prolongé.
Par exemple, ici, au bord du canal Saint-Martin, où les soirs, en fin de semaine, il y a tellement de gens, et de jeunes en particulier, ils ne savent plus danser à deux.
Je ne suis pas quelqu'un de nostalgique sur ce qu'il y avait avant et que c'est triste que ce n'est plus maintenant. Dès l'instant que ça danse, quoi qu'il en soit, et que ça danse en groupe, ou que ça danse... C'est ce que j'aime dans tous les espaces qu'on vient de traverser. Hein. C'est ce melting de gens, c'est musical,
c'est physique.
Alors c'est alcoolisé aussi, mais pourquoi pas.
Ah, vous savez que c'est une des dernières usines de Paris, Hexaconta, Clairefontaine, qui sont là où on fabrique, je crois, encore des choses à l'intérieur de Paris.
C'est bien, c'est comme les ports qui deviennent uniquement plaisants, et où il n'y a plus d'activité de pêche, c'est quand même un tout petit peu dommage. C'est vrai que quand l'entreprise est toujours présente au cœur de la ville et qu'on ne la relègue pas sur les extérieurs, qu'elle arrive à tenir, à résister, moi je trouve ça très important que la vie ouvrière ou elle soit encore au cœur de la ville. C'est difficile, hein, c'est difficile.
Ah oui.
C'est rare, en effet.
Le mètre carré étant ce qu'il est.
Oui, voilà.
Surtout ici. On se dirige.
Mais c'est dommage parce que c'est ça qui fait que les populations ne se mélangent pas et ça, c'est triste.
Europe 1.
On se dirige vers la gare de l'Est. On s'y retrouve dans un instant avec Jacques Gamblin. Je ne sais pas s'il a l'intention de prendre le train, il va nous le dire.
Frédéric Taddeï en balade avec Jacques Gamblin sur Europe 1.
Nous sommes avec Jacques Gamblin devant la gare de l'Est. On est en train de. On va entrer dans ce qui était autrefois la gare de Strasbourg et qui a vu passer des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Français qui partaient pour le front en 1914. Une gare qui a vu aussi les départs de l'Orient Express. C'était de là qu'on partait pour Constantinople. Il ne reste rien de tout ça, mais c'est toujours une belle gare. Hein.
Magnifique, c'est très très beau.
Pourquoi vous aimez les gares, Jacques Gamblin ?
J'aime les gares pour deux raisons. Déjà parce que c'est une façon de foutre le camp, évidemment, d'aller prendre l'air à bras-le-corps vers l'ouest, majoritairement pour moi. Mais après, dans toutes les directions, avec les tournées d'hiver que je fais depuis 30 ans.
Et là, vous allez partir en tournée, d'ailleurs, après,
là, je vais partir
après
aussi,
le théâtre du Rond-Point.
Absolument. Et puis, parce que deuxième raison, parce que c'est j'aime m'y asseoir et regarder. Parce que c'est à chaque fois une histoire qui se raconte. Parce que c'est que des histoires d'amour, même quand elles sont de désamour, de rupture. De séparation, de comment on se dit au revoir, de comment on ne sait pas quand est-ce qu'on va se revoir, pas forcément. Et je trouve toujours les scènes de retrouvailles, de deux êtres qui se retrouvent, un train qui arrive, l'autre qui attend sur le quai, toujours encore plus forte et émouvante que les scènes des gens qui se disent au revoir. C'est un peu comme la victoire en matière sportive. Tout est raconté dans la joie. Tout est raconté dans l'étreinte. de la retrouvaille, comme dans la victoire. Tout est raconté du manque qu'il y a eu avant et de son, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir après. Enfin, c'est bon, ça me raconte.
Un tout petit quelque chose qu'on a perdu, même si on ne veut pas être nostalgique, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a tous des téléphones portables et qu'on s'est parlé 5 minutes avant de se retrouver ou qu'on se reparlera 5 minutes après s'être quitté, qui enlève un tout petit peu d'intensité, il faut bien le dire, à ces étreintes dont vous parlez.
C'est vrai. Mais l'étreinte existe toujours quand même. Puis, c'est des lieux où on se projette. On regarde les gens, on se dit, ils ont une valise, qu'est-ce qu'ils ont dans leur valise, d'où viennent-ils, où vont-ils?
Ah oui, vous êtes encore là, fantasmé sur les voyageurs.
Oui, parce qu'un homme et une valise, c'est un homme et une vie, et que ces gens, vous pensez en fait tous ces gens qui émigrent et qui se disent qu'est-ce qu'on emporte et qu'est-ce qu'on n'a pas le temps d'emporter et qu'est-ce qui est le plus précieux, et c'est pas toujours les choses les plus pratiques. Et moi qui suis né dans une ville avec une famille extrêmement sédentaire, je suis toujours fasciné par ces gens qui quittent pour des raisons multiples et variées, qui quittent un pays et qui sont devant le vide de
l'avenir. Vous avez d'une certaine manière quitté votre pays, puisque je crois que vos parents tenaient la grande quincaillerie de Granville depuis, ça faisait 5 générations, non ?
Oui.
Vous auriez pu être la 6e génération.
Oui, mais non, ce ne sera pas moi.
Et d'une certaine façon, vous êtes parti, vous aussi.
Absolument, je suis parti.
J'ai migré.
Je me serais senti un peu trop enfermé dans
cette... Pourtant, ça devait être magique pour un enfant, non ? Vous avez consacré votre premier livre, d'ailleurs, qui s'appelait Cacaillerie.
Absolument. Et c'est vrai que c'était un espace magique. Il y avait 4-5 étages de réserve avec des objets partout et ce personnage qui ne comprenait pas comment toutes ces pièces détachées arrivaient à faire un tout. Comment tous ces gens qui circulent là, devant, derrière, partout autour de nous, arrivent à faire une société qui arrive quand même, bon an, mal an, à aller plus ou moins dans la même direction.
Même si on ne prend pas tous le même train.
Absolument.
Mais on prend toujours un train pour quelque part. C'était Gilbert Bécaud qui chantait ça. Vous vous souvenez ?
Ouais.
On va l'écouter.
Une gare au petit matin. Deux amours se tiennent la main. Ils sont tristes ou ils sont heureux, on n'en sait rien, mais ils sont deux. La vie, c'est ça, tu le sais bien, un train sans. Un grand train noir. plus au revoir.
C'était On prend toujours un train pour quelque part, une chanson que chantait Gilbert Bécaud en 1968. Vous aviez quel âge en 1968 ?
11 ans.
11 ans ? Ça nous dit combien vous avez aujourd'hui ?
Les matheux vont trouver très, très rapidement ce calcul mental.
On se retrouve dans un instant avec Jacques Gamblin. Nous sommes avec Jacques Gamblin dans la gare de l'Est. Jacques Gamblin qui joue Je parle à un homme qui ne tient pas en place au théâtre du Rond-Point. Jusqu'à 4 jours, Jacques ?
Jusqu'au 18 novembre.
Et ensuite tournée dans toute la France. On vous retrouvera ensuite en janvier dans le rôle du facteur cheval pour le film de Nils Tavernier. Un rôle. Un peu particulier, quand on retrace 50 ans de la vie d'un homme, dont 33 ans en ce qui concerne le facteur cheval, à construire son palais idéal.
Je ne sais pas comment parler de ce rôle en si peu de temps qui m'a quand même vraiment bouleversé. En fait, c'est un des plus beaux, sans aucun doute, que j'ai eu à interpréter. Et je dis que j'ai interprété un mystère, parce que quand on se pose la question de pourquoi un homme décide un jour de construire cette œuvre qui est devenue donc première œuvre d'art naïf, par Malraux en 69, et pourquoi on ne trouve pas la réponse, et alors on décide
dit que c'était pour sa fille.
On dit que c'est parce que et le tour est joué, mais parce que lui-même sans doute a été juste poussé par une force incroyable d'aller au bout de cette œuvre chaque jour. En plus de ses 32 km de facteur de tournée, il retournait sur les chemins pour collecter toutes ces caillasses qui ensuite atterrissaient scellées l'une après l'autre avec de la chaux vive.
Vous avez appris à faire du mortier.
Donc j'ai appris tout ça avec un homme merveilleux qui s'appelle Pierre Constant et qui s'est occupé pendant des années de retrouver, parce que l'œuvre a été terminée il est mort en 1924, je crois que c'est en 1914, il a arrêté, il s'est occupé du tombeau, il a continué à faire du baroque sur le tombeau de famille. Mais de là jusqu'à 1969, évidemment, le palais s'était énormément détérioré et Pierre Constant était en charge de retrouver à partir de quelques cartes postales, mais extrêmement peu nombreuses, et pour trouver les solutions, pour retrouver l'origine des placements, non pas des sculptures, parce que c'est pas de la sculpture, mais en tout cas des arrangements, des pierres, etc. Il devait lui parler, en fait. Et en fait, il discutait avec lui mentalement et pour trouver les solutions et pour être au plus près du respect de l'œuvre d'origine. Et cet homme-là, c'est peut-être mon premier spectateur de ce film. Il y a toujours un premier spectateur.
Ah oui,
oui. Quand j'ai joué de toutes nos forces, je me suis dit, mon premier spectateur, c'est le type qui fait de l'Ironman, c'est le type qui fait du triathlon. Si la sueur n'est pas placée au bon endroit, c'est lui qui va le voir tout de suite.
Mais alors, le premier spectateur, quand vous avez joué Jules Bonneau dans Les Brigades du Tigre, c'était qui le premier spectateur? Un gangster, un anarchiste?
Là, vous me posez une colle, oui, en effet. Un anarchiste, sans doute. Oui. Mais là, voilà, c'était pour moi, c'était Pierre. Et quand il a vu le film, qu'il a été touché, je me suis dit, voilà, alors je suis heureux, j'ai fait mon boulot.
Jules Bonneau, c'était pas n'importe quoi comme rôle.
Ah non, j'ai aimé ça.
Oui, parce que d'abord, c'est un vrai film d'action, mais au sens littéral du terme. Et puis Bonneau, c'est Jacques Brel avait joué Raymond Lascience, mais il n'a pas joué Bonneau. Bonneau, c'est quelque chose, non ?
C'est quelque chose parce que c'est aussi un mystère, parce qu'il était à la fois cet anarchiste engagé et puis en même temps un voyou de grand chemin, quoi. Donc,
pourquoi est-il devenu un voyou ? Parce que Bonneau, c'est vraiment. Bonneau, c'est quelqu'un qui, quand il a 15 ans, je crois, se fait arrêter et condamner parce qu'il a pêché avec un engin prohibé. Et je me dis que tout l'avenir de Bonneau va dépendre de cette condamnation,
cette injustice,
et puis des injustices qu'il a traversées par la suite.
Et cette rébellion, comment d'un seul coup on bascule en effet dans une autre vie, parce qu'on se sent pris dans un système d'injustice, quoi. Enfin, ou en tout cas démesuré, enfin, qui n'a pas de proportion avec le délit, bien sûr.
Et il inventera quand même le hold-up automobile, c'était pas rien. Hein. Avoir eu cette idée géniale, une époque où la police se déplaçait à cheval.
Incroyable, maintenant ça va être les hold-up en trottinette. Hein.
Allez savoir. Vous avez envie de prendre un train pour où, là, quand vous êtes devant. Je suis sûr que quand vous êtes devant les rails comme on l'est maintenant, quelle que soit la gare, vous avez envie de prendre un train.
J'ai eu la chance une fois d'être invité par un contrôleur. Pour aller dans la locomotive de tête, quoi, et de me retrouver face à je sais pas combien, 200 km, 300 km heure, devant les rails qui défilent. C'est un souvenir, c'est peut-être même encore plus fort que d'assister à un atterrissage en avion. J'ai eu la chance aussi, mais c'est très rare ça d'assister, d'être devant les rails. Là, c'est complètement dingue. Et un train pour partout, j'ai envie de voyager, je voyage pas assez. Je voyage pour le boulot beaucoup, mais je suis toujours étonné. D'ailleurs, les gens ils pensent toujours qu'on a le temps de visiter les villes. Non, on a le temps de visiter des plateaux, malheureusement, mais pas tellement les villes. Mais pour n'importe où, le voyage, c'est essentiel parce que c'est là qu'on rencontre des gens. Parce que c'est là qu'on cesse d'avoir des a priori sur tout. C'est seul le voyage qui permet ça.
C'est le recul géographique.
Oui, et puis c'est aussi de voir comment les gens vivent ailleurs et donc de les comprendre mieux, les accepter mieux, etc. etc.
Et soi-même, de nous regarder, nous, comme au fond, une des sous-parties de l'humanité, avec ses caractéristiques, ses éthiques, ses manies, ses habitudes, mais au fond, pas plus que ça.
Ce que vous dites me rappelle le c'est le même sujet et en même temps un autre, le GR20 en Corse que j'avais fait il y a de nombreuses années. C'est un sommet des chemins de randonnée français et où on se retrouvait donc dans un refuge chaque soir pour dormir et où les gens qui étaient là déjà arrivés nous regardaient d'un mauvais œil parce qu'on allait prendre une place supplémentaire dans le dortoir et jusqu'à que quelqu'un d'autre arrive qui nous permettait d'être intégrés au groupe. C'est-à-dire c'est un nouvel arrivant qui nous permettait d'avoir la sensation d'être intégrés au groupe.
Et tous ensemble, vous maudissiez le nouvel arrivant.
C'est sans doute. C'est une métaphore quand même de tout ce qui se passe aujourd'hui avec toute cette problématique des réfugiés et comment on les laisse entre deux eaux.
Merci Jacques Gamblin de nous avoir emmenés en balade avec vous aujourd'hui dans le 19e arrondissement. On est parti de la Philharmonie de Paris, nous voilà à la Gare de l'Est. Vous serez jusqu'au 18 novembre au Théâtre du Rond-Point dans Je parle à un homme qui ne tient pas en place, inspiré de votre correspondance avec le navigateur Thomas Coville. Un livre est sorti d'ailleurs aux éditions Équateur, plus complet que le spectacle puisqu'il raconte tout ce qui se passe ensuite. Et puis on vous retrouve en janvier dans le palais idéal du facteur cheval, hein, c'est le titre du film de Nils Tavernier. Dont vous partagez la vedette avec Laetitia Casta. Je vous souhaite le meilleur. Quant à nous, on ne se retrouve pas la semaine prochaine. Il y a les commémorations du 11 novembre 1918. On se retrouvera la semaine suivante.